Merci Raphaël pour ces beaux chants. Vous allez bien ce soir? Et j'ai entendu un oui, mais un oui un peu encore plus convaincant. Attention, danger. Lorsque j'étais jeune, ou plus jeune, ou du moins une quarantaine d'années de moins, minimum, j'ai écouté à l'occasion une série qu'il y avait à la télévision. Ça fait quand même au-dessus de 40 ans. Ça s'appelait en français « Perdu dans l'espace ». Oups, il y en a qui ont eu mon âge ou qui se rapprochent. Ou en anglais, c'est « Lost in Space ». Et dans « Perdu dans l'espace », la planète, non pas la planète, mais la famille Robinson, je pense, qui s'appelait, était sur une planète. Et c'était toujours frappant parce qu'ils faisaient leur vie quotidienne et à un moment donné, il arrivait quelque chose qui était pour arriver dans l'émission. Et qu'est-ce qui les prévenait? C'était un robot. Et là, il y avait un robot qui avait une tête quasiment comme un aquarium ovale et des bras qu'on aurait dit qui étaient faits avec des tuyaux de sécheuse. C'est à peu près ça, sans doute aussi. Mais là, lorsqu'il approchait quelque chose, le robot partait, puis « danger, danger, danger ». Les autres ne savaient pas ce qui se passait. Mais il était prévenu qu'il y a quelque chose qui s'en venait et il fallait qu'il prenne garde à ça. Donc, ce soir, j'aimerais ça qu'on regarde, on va regarder un passage de l'Épître aux Éphésiens pour poursuivre notre étude, justement, pour lequel j'ai voulu l'intituler « Attention, danger ». Mais comme ça fait plus de 2 mois qu'on n'a pas poursuivi notre étude dans l'Épître aux Éphésiens, j'ai pensé que ce serait bon de pouvoir se remettre un peu dans le contexte en tant que tel, afin de bien, d'une manière bien précise, pouvoir situer notre texte de ce soir, mais aussi pour nous rappeler d'où on est parti et où on en est rendu dans l'Épître aux Éphésiens, et pour pouvoir justement nous permettre de mieux comprendre ce qu'on va aborder ce soir. Donc, un plan, un résumé, je devrais dire plutôt, de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Tout d'abord, dans les chapitres 1 à 3 qu'on a vus dans les derniers mois, c'est la partie doctrinale en tant que telle, vraiment, de cet Épître-là. C'est dans cette partie-là, dans ces chapitres-là, qu'on voit vraiment les enseignements qui vont venir nous guider pour avoir une vie active par la suite. Donc, dans les chapitres 1 à 3, c'est vraiment toute la doctrine où là, on va voir vraiment, où on voit vraiment toutes les richesses que l'on a en Christ. J'ai un livre chez moi, justement, qui nous parle de l'Épître aux Éphésiens, entre autres un commentaire, et le titre du livre, bien, c'est « Soyez riches ». Parce que l'apôtre Paul, qui est en prison à ce moment-là, veut montrer aux chrétiens d'Éphèse à quel point ils devraient réaliser qu'ils sont riches. Et c'est pour ça que dans les premiers chapitres, il va tout d'abord y aller avec des enseignements qui vont nous parler vraiment de la doctrine, mais par la suite, dans les chapitres 4 à 6, non seulement là, ce n'est plus de la doctrine, mais c'est maintenant le devoir. Donc, non seulement on a vu les richesses dans un premier temps, mais par la suite, on voit les responsabilités. Donc, les chapitres 4 à 6, c'est vraiment la mise en pratique de tous les enseignements qu'il y a pu y avoir dans les premiers chapitres. Et l'objectif, dans le fond, de Paul, dans cet épître-là, c'est de nous faire prendre conscience d'un côté que oui, on a des grandes richesses en Jésus, mais qu'en même temps, ça nous amène aussi à avoir des grandes responsabilités en Jésus. La même chose. D'où l'importance de bien comprendre la doctrine et pour pouvoir agir adéquatement dans nos devoirs. Et vous savez, souvent, quand on parle de doctrine, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Parce que pour eux autres, c'est comme, voyons donc, c'est tannant, ça, de la doctrine, puis de la doctrine, puis de la doctrine. Mais l'enseignement qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est cet enseignement-là, ces doctrines-là, qui vont nous guider par la suite dans notre marche chrétienne. Donc, c'est important de toujours vraiment avoir cet équilibre-là entre ce que la parole enseigne et comment on doit réagir par rapport à ça et vivre dans nos vies au quotidien. J'ai relevé une citation que vous avez peut-être déjà entendue, mais qui dit ceci. Qui dit « Une vie pratique bonne et juste, repose toujours sur une bonne doctrine. Il y a un équilibre. C'est, je dirais, quasiment proportionnel. Bonne doctrine, un bon enseignement va amener une vie bonne en conséquence. Une doctrine qui est juste va amener une pratique qui va être juste aussi par la suite. Donc, dans un résumé de ce qu'on a pu voir dans les derniers mois, dans les chapitres 1 à 3, on a parlé vraiment des parties doctrinales, mais les richesses qu'on a. Et c'est quoi qu'on a comme richesse en tant que telle? Bien, c'est dans le fond, ce sont les possessions qu'on a en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, à cause de son œuvre accomplie à la croix, on a une série de possessions qui sont très importantes. La première qu'on a étudiée, les deux grands volets dans nos richesses, c'est nos possessions et notre position que maintenant on a en Jésus-Christ. Et en résumé, dans le fond, nos possessions, la première, c'est que nous sommes élus. Ce matin, ça a encore été souligné dans le message de Trevor, qu'il y a des choses qui ne sont pas faciles à comprendre concernant cette doctrine-là. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Dieu est souverain. Et ce que Dieu nous a montré, c'est que même avant la fondation du monde, il nous avait élus. Il savait qu'un jour, on lui appartiendrait. Donc, c'est un sujet qui a été abordé, une richesse que l'on a vraiment en Jésus. Qu'est-ce qu'on possède aussi? Bien, c'est que non seulement nous sommes élus, mais la parole nous montre aussi que nous sommes adoptés. Et encore là, lorsqu'on a vu ça, on a vu à quel point qu'on avait le privilège de savoir que maintenant, on n'était plus orphelins. Que Dieu, en Jésus-Christ, nous a adoptés, qu'on est rendu maintenant un enfant de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous sommes aussi rachetés. Et le Seigneur nous a rachetés à un prix incroyable, au prix de son propre sang. C'est ce qui fait qu'il nous a rachetés vraiment. Et en nous rachetant, il nous a pardonnés. Pardonnés, encore là ce matin, même au repas du Seigneur, on a pu voir comment on a le privilège maintenant, comme croyant, comme enfant de Dieu, d'être pardonné pour nos péchés passés, présents et futurs à cause de l'avocat qu'on a auprès du Père. Mais encore là, on pourrait dire, mais c'est déjà merveilleux d'avoir toutes ces possessions-là. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'en plus, on était héritier. On a un héritage qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se flétrir, qui nous est réservé, la Bible nous dit, dans les cieux. C'est réservé, c'est assuré. On a cet héritage-là, ces bénédictions-là qui sont à nous, et tout ça à cause du Seigneur Jésus. Et finalement, dans nos possessions, on a vu aussi que nous étions scellés du Saint-Esprit. On a un sceau. Et ce sceau-là vient dire, dans le fond, cet enfant-là, c'est mon enfant, il m'appartient. Et il n'y a rien qui va le retirer de ma protection, de ma main bénissante. Donc, des possessions qui sont des richesses incomparables. Et lorsqu'on a étudié toutes ces possessions-là, le but visé, c'était de nous faire prendre conscience vraiment de ce privilège-là qu'on a, de toutes ces choses-là qui nous appartiennent, qu'on doit régulièrement réfléchir dessus, nous rappeler, afin d'être de plus en plus, un peu comme tout à l'heure il était dit, pas en extase nécessairement, mais peut-être, oui, en extase, mais du moins émerveillé devant ça, parce qu'on en a toutes les raisons. Mais en plus de nos possessions, on a vu aussi que notre position qu'on a maintenant en Jésus-Christ, c'est quoi notre position qu'on a maintenant en Jésus-Christ? Bien, c'est que nous sommes ressuscités. On a vu en étudiant ces chapitres-là qu'on était mort, mais qu'à cause du Seigneur Jésus, maintenant, on est ressuscité. Mais non seulement on est ressuscité, mais on est assis dans les cieux. C'est incroyable de penser à ça. Imaginez un instant que j'ai beau avoir les deux pieds ici-bas sur terre, je suis assis au ciel. Quelque chose. Si je pouvais me projeter, me visualiser, je ne sais pas comment je suis assis, mais je dois être capoté bien raide, c'est merveilleux. Mais ça, là, c'est une position que Dieu me dit que j'ai à cause du Seigneur Jésus. Je suis ressuscité. J'étais mort, maintenant je suis vivant. Vivant pour lui et vivant pour l'éternité. Et l'autre position aussi, c'est que nous sommes maintenant aussi réconciliés. Et ça, de penser que si on jette un coup d'œil avant de connaître le Seigneur, qu'on était la Bible, on a vu qu'on était sans Christ, éloigné, étranger, sans espérance, sans Dieu, ennemi même. Hey, c'est ça que j'étais. Maintenant, pour chacun de ces points-là, c'est tout à fait le contraire. Je suis maintenant avec le Christ. Je ne suis plus éloigné, au contraire, j'ai été rapproché, je ne suis plus étranger, et ainsi de suite. Mais tout ça, à cause, encore une fois, du Seigneur Jésus. Donc, quand on prend le temps de réfléchir vraiment sur tout ce qu'on possède en Jésus-Christ, toutes ces doctrines qu'on a vues, tous ces enseignements-là qu'on a étudiés, et que dans notre cœur, vraiment, on réalise ça, la seule chose qu'on aurait envie de dire, c'est « Wow! Moi, je suis riche. » Réalisez-vous que vous êtes riche. C'est quelque chose. Ah, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas nécessairement ben de l'argent, peut-être. Mais on est riche à cause de ce qu'on a en Jésus-Christ. Si on ne le réalise peut-être pas suffisamment, il y a une prière qu'on peut peut-être adresser au Seigneur et que je vais vous lire, qui est dans le chapitre 1, toujours de l'Épître aux Éphésiens. Et c'est une prière, je pense, qu'on devrait adresser au Seigneur régulièrement, qui dit au chapitre 1 et au verset 18. Qu'il illumine, que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. On a besoin que notre cœur, que les yeux de notre cœur, donc vraiment à cet endroit-là où est-ce que vraiment on peut vivre et ressentir vraiment tout l'amour que Dieu a eu pour nous, que Dieu puisse illuminer vraiment notre cœur pour nous faire réaliser et que l'on puisse le savoir vraiment, que cette espérance-là et que toute la richesse que nous avons. Et lorsque vraiment ça se passe, lorsque vraiment on approfondit la parole de Dieu, lorsque vraiment Dieu par son esprit peut nous parler et qu'on se laisse vraiment transformer par lui et on comprend de plus en plus à quel point on est riche, on réalise le privilège qu'on a vraiment d'avoir, je dirais, ce compte en banque-là. Mais il faut en prendre connaissance. J'ai lu à un moment donné une histoire d'un homme qui était un très, très grand collectionneur d'œuvres d'art. Il était très riche. Il avait des œuvres d'art de toutes sortes. Puis, il était toujours à la recherche d'œuvres d'art. Et à un moment donné, en feuilletant, il a vu un article sur une œuvre d'art qui était assez particulière. Et il s'est dit, je veux l'avoir. C'est important que je l'aie. Et là, il a commencé à faire des recherches pour retrouver cette œuvre d'art-là. Et finalement, il a envoyé un de ses employés en disant, « Tu vas aller me trouver ça, je veux l'avoir. » Et après plusieurs mois, quelques mois, cette personne-là est revenue voir cet homme riche-là. Et savez-vous ce qu'il a découvert? C'est que l'œuvre d'art en question, savez-vous où elle était? Directement dans la bibliothèque de cet homme-là. Cet homme-là avait quelque chose d'une très, très grande valeur, mais il ne l'avait même pas réalisé pleinement. C'est un autre qui lui a fait prendre conscience qu'il y avait ça. Et pourtant, s'il avait pris la peine de regarder toutes ses possessions, tout ce qu'il avait déjà en sa possession, ne serait-ce que dans un catalogue qui lui appartient, j'imagine que ça aurait dû être classé, ça, il aurait dit, « Wow! Hey, c'est à moi, ça! Je suis là à vouloir l'avoir, puis c'est déjà à moi! » Bien, c'est la même chose avec Dieu. On a des possessions incroyables et c'est à l'intérieur de sa parole que vraiment on va réaliser cela. Donc oui, nos possessions plus notre position fait qu'on peut dire ce soir qu'on est riche. Et si on ne le réalise pas suffisamment, que le Seigneur puisse vraiment illuminer nos cœurs pour qu'on puisse le comprendre. Donc avec une aussi grande richesse dans ce qu'on a étudié, ça nous donne un aperçu d'un très, très grand, je dirais, privilège que l'on a. C'est tout un privilège d'être aussi riche, mais en même temps, quand on a des grands privilèges, ça égale aussi des grandes responsabilités. Et ça, ça va avec. Autant on peut avoir des grands privilèges à cause de tout ce qu'on a dans le Seigneur Jésus, autant ça nous amène aussi des grandes responsabilités. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, à partir du chapitre 4, va délaisser la portion plus doctrinale pour aller dans le pratique, pour pouvoir dire « oui, vous avez tout ça, maintenant vivez en conséquence ». Et c'est pour ça aussi qu'il y a une transition qui va se faire avec un verset pivot, que j'appellerais, qui est le chapitre 4, le verset 1, qui vient faire vraiment cette transition entre la doctrine et le devoir, et qui dit dans le fond, « Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Je vous exhorte donc à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et j'ai regardé dans une concordance que j'ai chez moi, et vous savez le petit mot qui est là, « Je vous exhorte donc. » Il revient 7 fois dans la concordance que j'ai regardée, 7 fois dans l'Épître aux Éphésiens, ce mot-là, « donc ». Je n'ai pas cherché des synonymes, là. Et c'est quoi, donc? Le petit Robert nous dit que s'il s'agit d'une conjonction qui sert à amener la conséquence de ce qui précède. À la lumière de tout ce que je vous ai enseigné dans les chapitres 1 à 3, de tout ce que je vous ai fait réaliser sur vos richesses, maintenant je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et le mot « exhorte » qui est là est très puissant. C'est pratiquement une supplication que l'apôtre Paul adresse aux Éphésiens et nous adresse à nous, de réaliser que vraiment on est aussi riche, mais que ça a des conséquences. Et s'il veut que l'on marche, c'est quelque chose qui est quotidien. Il nous supplie, dans le fond, il nous exhorte à marcher quotidiennement, vraiment, d'une manière digne. Et digne, littéralement, c'est tout simplement d'un poids égal. Il y a une notion d'équilibre entre ce que j'appellerais la marche et l'appel que Dieu nous a donné. Voyez-vous, on doit, notre statut ou notre vie pratique doit correspondre au statut que l'on a, à notre position dans le fond. Si je ne dis chrétien, je suis un disciple de Christ. Donc, je dois me comporter en conséquence. Et à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, bien, la vocation... Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, puis qu'on voyait des gens qui font des jobs qui ne sont pas nécessairement faciles. Comment ils font pour faire ce job-là? Bien, on disait quoi? Ah, ça doit être une vocation. Ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais ici, dans la parole de Dieu, la vocation, dans le fond, c'est tout simplement l'appel que Dieu nous a fait. Le jour où il est venu nous chercher, il nous a appelés, il nous a élus. Le petit Robert dit par rapport à la vocation, il dit que c'est un appel de Dieu touchant une personne, un peuple, afin qu'il vienne à lui. C'est quelque chose. C'est un appel de Dieu. Et un jour, on a répondu à cet appel-là. Et je vous lis un verset dans Romains chapitre 8 et le verset 30 qui dit ceci, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés. Dieu nous a appelés. Nous avons une vocation. Si vous êtes un enfant de Dieu ce soir ici, ben vous avez une vocation. Et ben vous devez marcher d'une manière digne de cette vocation-là. Et Parole vivante, qui n'est pas une traduction, mais plutôt une transcription en français un peu plus courant, en français un peu plus moderne, va dire ceci. En considération de tout ce que Dieu a fait pour nous, permettez-moi donc de vous adresser d'instantes recommandations. Conduisez-vous d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Et pourquoi Paul prend la peine de souligner ça? Cette instante recommandation-là, cette supplication-là, cette exhortation-là, Bien, c'est parce que Paul, il est comme vous puis il est comme moi. Il sait très bien qu'on peut avoir tendance à se relâcher. Il sait très bien qu'on peut avoir tendance à moins prendre au sérieux cette marche-là qu'on devrait avoir quotidiennement. Donc, oui, on est riche, mais en même temps, ces richesses-là nous montrent aussi qu'on a des responsabilités vraiment en tant que telles. Et c'est pour ça qu'à partir du chapitre 4, le verset 1, on rentre dans une portion très, très, très pratique. Où là, le mot « marche » va revenir très, très souvent. La marche, dans les chapitres 4 et suivants, c'est vraiment le mot clé, je dirais, en tant que tel, parce qu'il nous parle vraiment de notre conduite qu'on devrait avoir nuit et jour. Donc, mes responsabilités maintenant à moi, à la lumière de toutes ces richesses-là que j'ai, ben c'est quoi? On a vu que c'était de marcher tout d'abord dans l'unité. Avez-vous remarqué que lorsqu'on a étudié ces passages-là, au chapitre 4 principalement, de marcher dans l'unité, ça ne veut pas dire d'être uniforme, d'être tout pareil. Vous savez, moi, dans le cadre de mon travail, j'ai un uniforme. Et je peux vous dire que mon épingle à cravate doit être installée entre le quatrième et le cinquième bouton. Et rencontrer n'importe quel agent qui a une cravate, si vous allez vérifier, bien, il devrait, s'il respecte les règles, s'il est uniforme, la cravate, l'épingle à cravate va être entre le quatrième et le cinquième bouton à partir d'en haut. Ça, c'est uniforme. Et on a un paquet de directives comme ça parce qu'on veut que tout le monde soit, je ne dirais pas des petits robots, on n'est quand même pas des robots, là. Mais vous comprenez? Alors que l'unité, l'uniforme, c'est quelque chose qui vient vraiment comme une pression extérieure. Ça, c'est vraiment le but visé. C'est qu'il va y avoir des changements de comportement, mais avec une pression extérieure, alors que l'unité, c'est quelque chose qui vient beaucoup plus du cœur. Et dans ce qu'on a regardé en marchant dans l'unité, on a souligné effectivement que cette unité-là, comme on a à vivre ensemble aussi, on a à vivre en société, mais on a à vivre ensemble comme peuple de Dieu, il y a des valeurs qu'on devrait toujours rechercher individuellement afin que ça puisse transpirer, je dirais, collectivement, des valeurs chrétiennes sur lesquelles on a été exhortés. Par exemple, l'humilité, la douceur, la patience. On en a tous besoin. Et pour marcher dans l'unité, il est important que ces valeurs chrétiennes-là soient présentes au quotidien, dans votre vie, dans ma vie. Mais c'est aussi l'unité et la marche dans l'unité à l'égard de l'exercice des différents dons. On a étudié aussi l'importance que le Seigneur donne des dons, mais que les dons sont différents. Et on n'a pas à commencer à envier les dons d'un et de l'autre. Le Seigneur nous a placés avec des capacités, nous a donné des dons, et tout ça doit nous aider à marcher tous ensemble dans l'unité, afin qu'ensemble, vraiment, on puisse continuer. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans les chapitres 4:1-4:16. Et bien que ce ne soit pas toujours facile, comme nous sommes le corps de Christ, c'est pour ça que nos responsabilités à l'égard de tout ce qu'on a, c'est de marcher vraiment dans l'unité. À partir du chapitre 4 et au verset 17, on a vu l'importance de marcher dans la pureté. Encore là, en conséquence de tout ce qui a été vu précédemment dans les chapitres 1 à 3, il est important de maintenant réaliser que vous devez, que je dois marcher aussi dans la pureté. Et le chapitre 4, le verset 17, va dire « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus, c'est négatif, mais vous ne devez plus marcher comme les païens. Ce n'est pas vous autres, ce n'est plus à votre niveau, ce n'est plus à votre position, vous êtes maintenant des chrétiens. » Ah, il va arriver des chutes. Ça, là, c'est clair. Mais à la base, quand quelqu'un nous observe, il devrait y avoir une différence. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Parce que les païens, là, je viens de le lire, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont des pensées vaines. Les gens qui nous entourent et qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas le même but dans la vie. Ils peuvent avoir beaucoup de connaissances, mais ils n'ont pas de sagesse. Et même la sagesse qu'ils ont, c'est une sagesse qui vient des hommes, ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. On a vu aussi qu'il y avait l'intelligence même obscurcie parce qu'ils sont réfractaires à la parole de Dieu. Ils sont étrangers même, on a vu aussi à la vie de Dieu. Pensez à ça, ils sont étrangers à la vie de Dieu, ces personnes-là. Qu'est-ce qui les caractérise? Le mensonge, la colère et ainsi de suite. Donc, vous ne devez plus, vous ici ce soir et moi, Paul nous dit, vous ne devez plus marcher comme ça. C'est-tu assez clair ce qu'il nous dit? Donc, ça veut dire qu'on devrait faire attention. Il va même plus loin, il va parler des paroles mauvaises. Parce que ça caractérise les gens qui nous entourent. Si vous êtes assis le midi à la pause ou à la pause, et puis vous entendez tout ce qui se passe autour de vous, vous allez voir combien il peut y avoir un langage qui est déplacé et ainsi de suite. Et ça, il faut faire attention parce qu'on ne doit plus marcher de cette manière-là. On ne doit plus agir comme ça. La langue, c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour qu'elle soit utilisée à sa gloire maintenant. Donc, il faut faire attention. J'ai lu un jour l'histoire d'une dame, une chrétienne, qui avait été un anniversaire d'une amie, dans le fond, un anniversaire d'un ami. Et pour souligner cet anniversaire-là, les gens avaient embauché un comédien pour faire rire le monde. Et les gens riaient, mais toutes les farces qu'ils faisaient étaient très, très, on dirait, d'un goût douteux, vraiment. Et la chrétienne, elle ne trouvait pas ça drôle du tout. Mais à force de faire des farces et de rire, lui-même, j'imagine qu'il est venu la gorge sèche. Donc, il a demandé à avoir un verre d'eau. Et la chrétienne de dire, amenez-lui aussi une brosse à dents et du savon. Parce qu'elle était offusquée d'entendre tout ce qu'elle entendait là. Elle avait besoin de se faire laver la langue avec du savon. Bien, ça, c'est la marche telle que les païens l'ont. C'est ça que Paul nous donne. Donc, nous, on doit faire attention parce qu'on ne doit plus marcher de cette manière-là. Et il va même plus loin, il va nous montrer à quel point avant ça, on était non seulement dans les ténèbres, mais il va dire, vous étiez ténèbres. C'est plus qu'être dans les ténèbres. Ce qui vous caractérisait avant de connaître le Seigneur Jésus, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, vous êtes quoi? Lumière. Bien, si vous êtes lumière, marchez comme des enfants de lumière. Encore là, quel contraste. Donc oui, marcher dans l'unité et marcher dans la pureté. C'est l'exhortation, c'est le test, quasiment je dirais pratique, que l'apôtre nous lance à nous ce soir aussi. Mais en plus de ça, considérant vraiment l'importance de tout cela, l'apôtre sachant très bien que ce ne sera pas nécessairement facile de toujours marcher dans l'unité, de toujours marcher dans la pureté. Il va encore aller plus loin et il va faire un avertissement. Il va faire un avertissement aux gens en leur disant, « Prenez donc garde, encore un donc. » Et c'est à partir du verset 17 du chapitre 5 qui va nous faire cette mise en garde qu'on va regarder ce soir un peu plus attentivement. Au chapitre 5, verset 15, pardon. Il va dire, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Prenez donc garde, un avertissement. Avec ce qui vient d'être dit avant, dans la marche du croyant, dans le service du croyant, en faisant attention à marcher dans l'unité, en faisant attention à marcher, comme je l'ai souligné aussi, dans la pureté. Maintenant, il va ajouter en disant, prenez donc garde. Et ça, c'est un impératif. Ça veut donc dire qu'il y a un danger qui nous guette. S'il prend la peine de souligner qu'on doit faire attention, ou que les Éphésiens d'alors devaient faire attention, c'est aussi vrai pour nous. Pourquoi? Parce que certainement que l'apôtre sait très bien que ces Éphésiens-là sont susceptibles d'être influencés. Influencés par le monde qui les entoure, puis influencés, je dirais aussi peut-être, par les ruses de l'adversaire. Et ce monde-là qui entourait les Éphésiens, c'est un monde qui est déchu. On l'a souligné ce matin encore là aussi. Douglas nous l'a souligné dans la prédication que le monde, souvent dans la parole de Dieu, lorsqu'on en parle, c'est un monde qui est vraiment déchu et dans lequel il n'y a pas de place pour Dieu. C'est ça qui vous entoure, c'est ça qui m'entoure, c'est ça qui entourait les Éphésiens d'alors. Donc, Paul leur dit, « Oui, vous savez tout ça. Oui, je vous ai enseigné. Oui, je vous donne toute la bonne façon de vivre en fonction de la position que vous avez. Maintenant, ce que je vous dis, c'est prenez donc garde. » Et il va leur dire de prendre garde afin de vous conduire, encore une fois, l'idée de marche avec circonspection. Oh, voilà. Si j'arrivais et je vous disais, alors aujourd'hui, comment ça a été? Est-ce que vous avez été circonspect? Avez-vous agi aujourd'hui avec circonspection, messieurs, dames? Peut-être que certains diraient, je ne le sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, parce que c'est quand même pas un mot, puis surtout pas, allez pas parler de circonspection au travail, je vous dis tout de suite, là. Même avec la meilleure des secrétaires, je pense que ça ne marchera pas. Parce que le dictionnaire nous dit c'est quoi une circonspection. Le petit Robert 2011 nous dit circonspection. Surveillance prudente que l'on exerce sur ses actions, ses paroles, en prenant garde à toutes les circonstances. Du latin circum autour et specere, c'est pas vraiment latin, mais en tout cas, regardez. Je ne le prononce pas de la bonne manière. Autour, regardez. Regardez autour. Donc, c'est vraiment une surveillance prudente que l'on exerce à la fois sur ses actions, les paroles, en prenant garde à ce qui se passe autour de nous. L'apôtre nous lance un avertissement. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. Parce que si vous n'êtes pas sur vos gardes, vous allez avoir des mauvaises surprises. Et l'idée, j'avais noté dans ma parole, je ne sais même pas qui a prêché, j'avais écrit au crayon de plomb, chemin avec mine. Ça m'a fait penser, effectivement, vous savez, quand on écoute les nouvelles, qu'on regarde les militaires qui sont en Irak, qui sont en Afghanistan et tout ça, et qui s'en vont, ils savent très bien le chemin qu'ils ont à suivre. Ils partent de là et ils doivent s'en aller là. Mais ils s'en vont-ils en fou? Pas en tout. Ils s'en vont, il y a des gens qui s'en vont et qui surveillent continuellement ce qui se passe autour. Ça, c'est se conduire avec circonspection. C'est tout analyser, c'est tout regarder, c'est essayer de détecter les dangers, que ce soit des mines, dans bien des cas, malheureusement, ou autres qui pourraient surgir dans leur déplacement, dans leur conduite, dans leur marche. Mais pour vous et moi, on a exactement la même mise en garde qui s'adresse à nous. Paul nous dit de prendre garde afin de nous conduire avec circonspection, en faisant vraiment attention, en étant observateur, en réalisant les dangers qui nous guettent, vous et moi. Parole vivante, pardon, va dire, « Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. » Donc, dans le fond, le contraire de ça, ce serait quoi? Ce serait de vivre notre vie chrétienne avec légèreté et insouciance. Ça se peut-tu qu'en 2011, il nous arrive de vivre notre vie chrétienne avec légèreté et insouciance? Ça m'arrive-tu à l'occasion, moi, de prendre ma vie chrétienne très à la légère, de ne pas avoir cette attitude-là de réaliser tous les risques que j'encours au quotidien, dans ma marche chrétienne, dans mon service chrétien, quand je suis avec les gens qui m'entourent au travail et ainsi de suite, que je ne fonctionne pas suffisamment en ayant les deux yeux vraiment ouverts, les oreilles ouvertes en disant « Oups, attention, danger ». Ça, là, ça ne vient pas de Dieu. Je dois faire attention parce que je suis un chrétien. Je dois avoir un comportement qui correspond à ma position. Donc, oui, Paul prend la peine de faire cette mise en garde-là en disant de prendre garde afin de se conduire avec circonspection. Mais Paul nous donne 5 raisons pour lesquelles on devrait être prudent puis faire attention à notre conduite au quotidien. Donc, pourquoi prendre garde à ma conduite? Il y a 5 raisons qu'il nous donne dans les versets qui suivent. La première, c'est que c'est une marque de sagesse. D'apprendre dans notre vie chrétienne à marcher d'une manière circonspecte, en prenant garde, en faisant attention vraiment à tout ce qui nous entoure, bien, c'est une marque de sagesse. Parce que la fin du verset 15, il dit « Non, comme des insensés, mais comme des sages. Et vous savez, dans l'insensé, dans la parole de Dieu, dans le sens biblique, c'est quelqu'un qui, oui, bien entendu, vit loin de Dieu et en opposition à sa parole. D'ailleurs, quand on fait de l'évangélisation, souvent on va dire, l'insensé dit dans son cœur quoi? Il n'y a point de Dieu. Mais dans la parole de Dieu, l'insensé, ça peut être beaucoup d'autres que ça aussi. Ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être un croyant qui est tout simplement quelqu'un qui ne croit pas complètement ce que Dieu dit. Et tantôt, dans ce qu'on a chanté aussi, ça me fait vraiment réfléchir là-dessus. Parce que la parole de Dieu, elle est là, et la parole de Dieu, elle est complète. Est-ce que ça peut arriver que je prenne des portions de la parole seulement? Donc, de ne pas croire complètement ce que Dieu dit, c'est être un insensé. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'attache aux choses qu'il ne faudrait pas. Ça aussi, c'est être insensé. Et je vous lis 1 Timothée 6, 9 pour vous montrer un exemple de ça. Paul va dire à Timothée, au chapitre 6 et au verset 9, il va dire, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » De vouloir s'attacher à des choses qu'on ne devrait pas, c'est d'agir en quoi? En insensé. Comme de prendre des portions seulement de la parole, c'est être insensé. Donc oui, on peut tous agir, vous et moi aussi, parfois comme un insensé, et ce n'est pas à ça qu'on est appelé. Même un grand homme de Dieu comme David a dit de lui-même qu'il avait été insensé. Il va dire dans 2 Samuel 24, 10, « Après avoir fait recenser le peuple, David sentit son cœur envahi par le remords. Il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en agissant ici. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner la faute commise par ton serviteur. J'ai agi tout à fait en quoi? En insensé. » Un homme de Dieu peut agir en insensé. Et ce qui nous exhorte ici, c'est de faire attention justement dans notre conduite, de prendre vraiment garde, de bien regarder autour de nous tout ce qui se passe, afin de ne pas être comme des insensés, mais comme des sages. Et je l'ai dit tantôt, ne pas oublier que la sagesse de Dieu, ce n'est pas la sagesse du monde. Et si vous, comme moi, il vous arrive de peut-être de manquer de sagesse, de le réaliser un peu comme David ici. Vous vous souvenez ce que Jacques nous dit? Il dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Dans notre façon de nous conduire quotidiennement, dans la façon de porter attention à tout ce qui nous entoure, c'est une marque de sagesse que de le faire ainsi. Puis dans le fond, la conduite sage, c'est celle qui correspond, qui devrait toujours correspondre aux enfants de Dieu. Mais non seulement, c'est une marque de sagesse que de prendre garde à notre conduite, mais aussi, il y a une autre raison qu'il donne, c'est que la vie est courte. Au verset 16, il va dire, « Rachetez le temps. » Je dois prendre garde à ma conduite parce que la vie est courte. Si vous avez 20 ans, puis que moi je me souviens à 20 ans, quelqu'un m'aurait dit « la vie est courte », j'aurais dit « voyons donc ». On entend ça souvent des jeunes aussi, mais pas juste 20 ans. Là. J'ai tout quoi? J'ai toute la vie devant moi. Mais c'est quoi la vie? C'est quoi? C'est peu. Souvent, quand on évangélise, on va dire que vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît, un peu comme en hiver, quand on respire, ça sort. L'auteur nous rappelle que la vie, elle est courte. Donc, j'ai toute ma vie. Cette vie-là, elle n'est pas longue. Et la semaine dernière, il m'arrive des fois, lorsque je vais à Québec à une réunion, je suis une personne assez un peu nostalgique et je repasse des fois pour me rendre à la place où je dois aller par des rues, la rue où j'ai vécu quand j'étais jeune. Hey, là, ça me rappelle des souvenirs. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash, je me suis dit, je ne sais pas si telle personne demeure encore là. Hey, allume, Benoît. Ça fait quasiment 50 ans que tu es parti, si elle est encore là. Elle a manqué quelque chose. Elle a dû se marier certain, la personne. Elle a dû, elle est certainement plus là. Mais voyez-vous, ça, je réalise à quel point ça peut passer vite. Et Dieu, en plus, a établi des limites à notre vie. Et c'est ça l'idée de racheter le temps. Le temps en question, c'est parce que Dieu a établi des limites à notre vie. Et c'est à l'intérieur de ces limites-là qu'on est appelé, dans le fond, à le servir. Et si vous pouvez me dire, vous, c'est quoi les limites de votre vie, ben, je ne sais pas comment vous allez faire parce que moi, je ne les connais pas. Pour certains, c'est très court. Pour d'autres, c'est plus long. Mais admettons qu'on dit que ça va bien, puis on va jusqu'à... Bon, faire attention à ce que je veux dire, là, parce que je dis trop... Il y en a qui vont dire, veux-tu que je meure ici, t'asseoir? Mettons que 100 ans, tiens. Hein? Il nous en reste encore tout le monde un petit bout. Mais c'est quoi 100 ans par rapport à l'éternité? Puis 100 ans, parler à quelqu'un qui en a 80, il va vous dire que ça a passé vite. Donc oui, effectivement, la vie, elle est courte. Et de se conduire à ce moment-là avec circonspection, en prenant garde à tout ce qui nous entoure, c'est important. Mais là, de racheter le temps, on pourrait dire, oui, mais comment on va faire ça pour racheter le temps? Bien, la réponse, c'est de faire les meilleurs choix. Une des premières façons, c'est d'être capable de faire les choix les plus importants. Oh, c'est important d'étudier, c'est important de travailler, c'est important d'avoir des loisirs, je suis d'accord. Mais quand on regarde un peu notre horaire, quand on regarde tout ce qu'on a fait dans une journée, dans une semaine, dans un mois, est-ce qu'on n'aurait pas eu plus de place justement pour les choses les plus importantes, c'est-à-dire les choses de Dieu? Tout à l'heure, Raphaël nous a fait chanter ensemble en disant « Te connaître, Jésus, il n'est rien de meilleur. Hein? » Ce qui m'était cher avant, bien, te connaître, Jésus, il n'est rien de meilleur. Donc, ça nous rappelle qu'effectivement, lorsqu'on prend le temps pour mieux connaître le Seigneur Jésus, c'est ça qui est le mieux. Donc, non seulement faire les meilleurs choix, mais utiliser notre temps vraiment aussi en tirant le meilleur, je dirais, profit du temps dont on dispose. On en a tous du temps. Et quand même qu'on dirait qu'on est trop occupé, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut se questionner. On est peut-être trop occupé et on ne prend pas suffisamment le temps pour les choses les plus importantes, pour approfondir vraiment notre relation avec le Seigneur et pour le servir aussi. Parce que les chapitres qu'on vient de voir nous parlent justement de la marche du croyant et du service. Donc, c'est important de pouvoir être capable d'avoir une vie qui va être vraiment au service aussi de Dieu, dans ce qu'il va nous confier. Et si vous ne savez pas quoi faire dans l'Assemblée, si vous ne savez pas comment vous impliquer, il y a tellement de possibilités. Venez voir les anciens, venez voir les diacres, vous allez voir qu'il y en a des besoins. C'est incroyable. Et vous qui êtes plus jeunes, de prendre le temps de vous former. Attendez pas d'avoir 4-5 enfants. À 4-5 enfants, le temps, il passe vite aussi, là. Donc, des fois, on peut saisir les occasions que l'on a pour pouvoir justement approfondir notre connaissance de la parole de Dieu aussi. Il y a une personne qui a dit un jour, « Une vie bien remplie s'occupe à quelque chose qui lui survivra. » Si je faisais la liste des choses que j'ai faites dans ma journée, dans ma semaine, est-ce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui vont survivre à ma mort en tant que telle? Parce que des vies vécues vraiment pour le Seigneur, c'est des vues qui ont des conséquences pour l'éternité. Et c'est pour ça que le psalmiste va dire, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Combien c'est important pour nous aussi. Donc, une troisième raison maintenant pour laquelle on devrait être prudent et faire attention à notre conduite, bien, les jours sont mauvais. C'est ce qu'il dit au verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Au temps de Paul, il y avait des persécutions qui guettaient les chrétiens d'alors, mais il y avait aussi un monde qui était rempli de corruption, de débauche, avec le temple de Diane et ainsi de suite, des prostituées. Mettez tout ça. Bien, est-ce qu'en 2011, on peut dire que les jours ne sont pas mauvais? Peut-être qu'à nos yeux, des fois, ils ne sont pas, mais aux yeux de Dieu, ils le sont aussi. Autant aujourd'hui qu'il l'était à cette époque-là. C'est aussi pire, dans le fond. Sauf que souvent, dans notre vie chrétienne, on a tendance à s'endormir et à ne pas réaliser cela. C'est pour ça que la mise en garde de l'apôtre Paul, elle est là, pour nous aider vraiment à faire attention. Ce matin, on a lu à un moment donné dans l'Épître, si je me souviens bien, aux Romains, j'avais un petit passage, j'avais écrit une petite citation dans le bas qui dit, je pense que ça a été dit ici dans une prédication antérieure, il dit, « J'ai cherché l'Église, je l'ai trouvée dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvée dans l'Église. » Est-ce que ça ne serait pas peut-être la situation actuelle en 2011 aussi? Peut-être qu'on relève trop facilement la garde, on ne prend pas suffisamment garde dans la manière dont on se conduit. Donc oui, il est important de vraiment porter attention à ça parce que aussi les jours sont mauvais. L'avant-dernière maintenant, « Dieu m'a donné une intelligence. » Verset 17, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Darby va dire, « Ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Comprendre, Dieu nous a donné une intelligence pour comprendre. Donc, utilisez vraiment notre intelligence pour découvrir et faire la volonté du Seigneur. C'est important. On rachète le temps, on comprend que ce n'est pas facile. On a les yeux ouverts à tout ce qui se passe. On a été enseigné adéquatement. Bien, maintenant aussi, comprenez pour vous quelle est la volonté du Seigneur. Donc, pas juste connaître la volonté, mais la comprendre aussi. Et Romains 12:2 va dire, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » On a besoin d'être renouvelés vraiment dans notre intelligence. Et vous savez, connaître la volonté de Dieu puis la comprendre, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas une affaire mystique. Là. Dieu va m'apparaître cette nuit et va me dire ci, va me dire ça. Ben non. C'est comment? Ben, ça va être par la lecture, par la méditation, puis par la prière qu'on va comprendre vraiment ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'il nous a donné l'intelligence nécessaire pour cela. Mais dans la mesure où on fait le nécessaire en lisant, en priant et en le méditant. Et si vous n'êtes pas sûr de la volonté de Dieu, je peux vous donner quelques pistes que vous pouvez être sûr que vous ne pouvez pas vous tromper. La première volonté de Dieu, c'est de lui appartenir. Si vous ne lui appartenez pas, c'est la première chose. Ensuite, être rempli du Saint-Esprit. On va le voir à partir de la semaine prochaine, l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut aussi, c'est notre sanctification. C'est simple. Ça, là, vous êtes sûr d'être dans la volonté de Dieu. Cherchez pas plus que ça. Vous pouvez chercher plus, mais ça, c'est clair. Mais maintenant, pour la façon de bien vous conduire au quotidien avec tous les dangers qui vous guettent, soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et finalement, en terminant, Dieu a un plan pour ma vie. Quand vous regardez les versets 15, 16 et 17, et que Dieu veut que vraiment on se conduise de la bonne manière en fonction de la position qu'on a et qu'on accomplisse sa volonté, c'est parce que Dieu, dans le fond, a un but. Dieu ne vous a pas sauvé, Dieu ne m'a pas sauvé pour rester assis sur votre salut. Souvenez aux Thessaloniciens, il leur a dit, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant des idoles et ainsi de suite pour servir le Dieu vivant et vrai. Dieu vous a sauvé pour servir aussi. Donc, c'est de ne pas rester assis. Et le Seigneur, même dans Éphésiens 2, on a vu aussi, lorsqu'on l'a étudié, qu'il ne nous a pas sauvés par les bonnes œuvres. On est facile à citer le verset 8 d'Éphésiens 2. « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de vrai. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, et ainsi de suite. » Ça va bien. Mais après les œuvres, ils ont une place très importante. On n'est pas sauvé par des bonnes œuvres, mais on est sauvé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées quoi? À l'avance pour que nous les pratiquions, parce que Dieu a un plan. Et c'est pour ça que pour le Seigneur, c'est aussi important. Donc, Jean Calvin a dit, c'est la foi seule qui justifie, mais la foi qui justifie ne peut rester seule. Impossible. Voyez, on peut être enseigné, connaître la doctrine, mais ce qui compte par la suite, c'est de réaliser la mise en pratique vraiment de tout cela. Et qu'on réalise vraiment qu'on doit toujours vraiment être sur nos gardes en tant que tel. Donc, que le Seigneur nous donne de faire attention, de réaliser vraiment au travers de ces petits pépites-là et dans ce qui s'en vient, parce que dans ce qui s'en vient, ça va être encore plus pratique, aussi pratique que je dirais, de réaliser que oui, avant, on avait une ancienne vie, maintenant on a une nouvelle vie. On était mort, on est vivant. Avant, on imitait le monde, maintenant, on doit imiter Dieu. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à ne pas gaspiller nos vies et qu'il nous aide aussi vraiment à avoir l'œil ouvert afin qu'on puisse avoir l'intelligence spirituelle nécessaire pour voir tout ce qui est autour de nous et choisir toujours ce qui est le meilleur afin que de cette manière-là, il puisse vraiment être honoré et glorifié. Prions. Notre Dieu, notre Père, quand on lit des passages comme celui qu'on a vu ce soir, Seigneur, ça nous rappelle qu'il y a des dangers qui nous guettent. Et on te confesse que trop souvent dans notre vie chrétienne, on la vit à la légère, parce qu'on n'est pas suffisamment conscient de l'influence que le monde a sur nous. Et Seigneur, pourtant, avec toutes ces richesses que tu nous as données à cause du Seigneur Jésus et en lui, on devrait avoir une vie qui t'honore, Seigneur, et qui correspond vraiment à la position que l'on a. Seigneur, on veut te demander de nous aider vraiment à marcher d'une manière qui t'honore et qui soit digne de cette position-là. Et si ce soir, Seigneur, il y a des gens ici qui ne te connaissent pas encore, qui puissent faire vraiment cette première étape, comme on l'a souligné tout à l'heure, l'importance de t'appartenir, de pouvoir goûter par la suite à toutes ces bénédictions-là. Parce qu'on sait, Seigneur, que lorsqu'on ne t'appartient pas, c'est un choix que l'on fait aussi et qui nous amène séparés de toi pour l'éternité. Seigneur, on te remercie parce que le Seigneur Jésus a tout fait afin qu'on puisse être réconciliés avec toi. Merci pour son sacrifice parfait et que tu nous aides à porter honorablement ce nom de chrétien que nous avons à cause de lui. Et c'est en son nom qu'on t'en prie. Amen.